Merci pour les brillantes présentations. Je voudrais demander et poser une question à Madame Clarisse, parce que quand je vois le Burkina, je vois le Mali. Bon, c'est pratiquement la même chose pour moi. Donc, s'il n'y a pas de diplomate malien ici, je pense que la présence d'une diplomate burkinabé me suffit largement. C'est vraiment merveilleux qu'au Burkina, vous ayez associé la société civile à l'élaboration du rapport du Burkina Faso. Mais j'aimerais savoir si vous avez l'occasion de discuter avec vos collègues maliens par rapport à la question. Parce qu'au Mali, c'est vrai qu'on nous appelle une ou deux fois, question qu'on ait notre nom sur la liste de présence. Après, on nous dit bon merci, nous pouvons faire le reste du travail. Ça, c'est la première préoccupation. Mais par rapport au suivi des recommandations, comment ça se fait au Burkina? Parce que je sais que dans certains pays, il y a des plans d'action, des mises en œuvre des recommandations issues de l'EIP. Mais je me demande comment ça se fait au Burkina Faso. Merci.
Merci Monique. Merci à Joshua et à Madame Merendol. J'ai une question pour Madame Merendol. Sur la formulation des recommandations, on en a discuté depuis la précession jusqu'à aujourd'hui. Et on a parlé de la formulation de recommandations trop générale et trop vague qui ne permettent pas un bon suivi après. Donc je voulais savoir pour des pays comme le Burkina, aussi comme le Mali, qui sont des pays en développement, dans la formulation des recommandations, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on n'a pas souvent des scrupules à faire des recommandations? Est-ce qu'on est plus enclin à dire à la Suisse que sa politique migratoire n'est pas très respectueuse des droits de l'homme, par exemple? Et aussi, je voulais savoir comment le groupe africain se comporte au Conseil des droits de l'homme. Les 13 pays qui sont... Est-ce qu'on se soutient mutuellement dans nos différentes résolutions et votes, etc. Merci.
Merci. Encore une. Oui. Vas-y, Fatima.
OK, merci bien pour les deux communications qui étaient brillantes. J'aimerais poser une question à Madame Clarisse Merendol. Et est-ce que vous avez l'impression que la société civile burkinabé est active? Parce que moi, comme on est au ministère des droits humains, on a comme l'impression qu'il y a vraiment un désintéressement total pour les questions des droits de l'homme de la part de plusieurs OSC. À part peut-être les têtes d'affiche que l'on voit, que l'on connaît d'habitude, les gens ne s'intéressent pas, s'intéressent de moins en moins en fait à la question des droits de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de faire quelque chose, peut-être en collaboration avec le ministère, pour que justement la société civile soit plus active et enclin justement à donner son mot pour la question des droits de l'homme. Merci.
Merci. Oui. Judith, elle est zambienne.
Thank you very much, Madame Clarisse, for your presentation and Joshua. My question is to Madame Clarisse. I was interested in the expression that whenever the word the term human rights is used, attainers, you know, stand up. And is this, since you are based here in Geneva, are these attainers more on our African governments or it's worldwide? And I don't understand because the governments are the state's parties to these human rights instruments. The governments ratify or accede to these human rights instruments. And then when the same issues are raised, the attainers go up. And you did state in your presentation that governments and civil society, we don't speak the same language. But I always wonder, what about the target groups? What about, we may not speak the same language, but aren't we looking at benefiting the same people? Aren't we looking at the same issues, reaching the same target? And why are governments afraid of the term human rights? Because the first time I learned about human rights, I was told that I must think of human rights as the sum total of a human being, that you cannot separate the two. And we have the characteristics, I mean, inalienable, inherent, that universal. So don't governments believe in that? Or is it a certain kind of human rights? You talked about water. sanitation in Burkina Faso, isn't that a human right? Or is it some certain kinds of human rights that threaten your hegemony or government's hegemony? That is the human rights. Those are the human rights we are not interested in. Thank you.
Oui, merci Judith. Je vais d'abord demander à Clarisse de répondre parce que là, il y a des points soulevés qui sont extrêmement fondamentaux, tout comme les droits. Donc, Clarisse, je te laisse le soin de répondre.
Merci, Monique. First of all, I would like to answer what my sister from Zambia, Judith, will say. Je reprends en français. Ça m'a rendu utile, en fait. Parce qu'on essaie toujours de s'exprimer avec nos collègues anglophones parce qu'elle a posé une problématique importante. Alors, la question fondamentale des droits de l'homme se pose pour les États lorsqu'on touche leur obligation de les réaliser. Le problème notamment se situe au niveau des droits socio-économiques, où les États ont une obligation, même si aujourd'hui on dit que c'est une obligation de moyens, de plus en plus on le voit plutôt comme une obligation de résultats. Il n'y a pas de raison qu'un État qui a du pétrole, qui a des ressources minières importantes, ne puisse pas satisfaire un minimum de choses pour son peuple. Exemple, le droit d'aller à l'école, construire des écoles, avoir de l'eau potable, avoir des hôpitaux, que les femmes puissent accoucher dans des conditions acceptables. C'est là que le problème se pose. Parce que lorsqu'on interroge les États sur le pourquoi du comment les choses ne sont pas réalisées, ils comprennent tout de suite qu'ils ont une responsabilité qu'ils n'ont pas remplie. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit droits de l'homme, tout de suite, les États ne voient même pas le fait que les droits de l'homme sont intrinsèquement liés à la personne humaine. Ils ne voient pas le fait que la personne humaine naît avec les droits. Ils voient tout de suite leurs obligations qui ne sont pas remplies. Et donc forcément, aucun État n'est heureux d'entendre la communauté internationale lui dire qu'il n'a pas rempli sa mission. Je crois que c'est là le véritable problème. Ce n'est pas qu'ils n'en sont pas conscients. Je crois que nos dirigeants politiques aujourd'hui sont des personnes qui ont fait des études comme nous, qui malheureusement souvent ont critiqué les gouvernements précédents sur le fait qu'ils n'aient pas rempli leurs obligations et qui aujourd'hui se retrouvent au pouvoir et ne font pas mieux et parfois font pire que ceux qui les ont précédés. C'est là que le problème se pose. Sinon, je pense que les États sont très conscients de ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'ils viennent, par exemple, à l'examen périodique universel, c'est pour passer en revue ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils n'ont pas fait. Je prends le cas des États africains qui sont indépendants comme le Burkina Faso depuis 1960. Quand vous regardez 1960 à aujourd'hui, faites le bilan. On est toujours à la base des droits de l'homme. On se dit toujours, il faut que les enfants naissent dans des conditions acceptables. Il faut que les enfants aillent à l'école. Il faut que le monde rural ait accès à un certain nombre de conforts, etc. Et puis, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire qui ne sont pas des choses qui sont des choses qui peuvent être réalisées. Ce n'est pas... Parfois, il suffit de peu pour faire des choses. Construire une maternité, avoir du matériel pour que les femmes puissent s'y rendre, ça peut être une question de jours ou de mois. Le problème, peut-être, c'est trouver des personnes formées, capables d'assister les femmes, etc. Et on sait qu'on est souvent dans une société qui évolue à un rythme, à double rythme ou à triple rythme, et que de moins en moins peut-être de personnes ont envie d'aller dans les campagnes pour assister les femmes, mais il y a des gens dans les campagnes qui vivent dans les campagnes qui pourraient bien assister les femmes pour accoucher, etc. Donc je pense que les droits de l'homme suscitent justement un intérêt, je dirais pas un intérêt, dès qu'on dit droits de l'homme, je dis tout le monde sursaute, parce que pendant longtemps, on a assimilé droits de l'homme à droits politiques et civils. Et que, en général, avant, lorsqu'on parlait de droits de l'homme, on parlait d'un tel opposant qui a été mis en prison, de tel opposant qui a été tué, etc. Donc forcément, tout de suite, on indexe le pouvoir politique en place, qu'il soit responsable ou pas, parce que c'est du devoir de l'État de garantir les droits des populations. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit assassiné dans un pays sans qu'on ne sache pas comment ça s'est passé. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Maintenant, qui c'est qui peut dire qu'il sait quelque chose? C'est toute la question. Donc je pense que il faut que cela change. c'est-à-dire qu'il n'y ait plus ce regard politique sur les droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de génération de droits comme on le faisait il y a quelques années, où on scindait les droits politiques, les droits sociaux, et puis ce qu'on appelle les nouveaux droits, droits au développement. D'ailleurs, moi, ça m'irrite, parce que quand on dit droit au développement, on dit un nouveau droit. Mais c'est la base des droits. Ce n'est pas un nouveau droit. Se développer, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Chacun aspire à naître, grandir, évoluer dans des conditions acceptables. Je ne pense pas que ce soit la méconnaissance. Il y a une conscience réelle. Mais je crois qu'il y a d'autres intérêts, parfois, malheureusement, qui prennent le pas sur les intérêts des droits de l'homme en tant qu'élément distinctif, droit culturel, droit social, droit à la liberté d'expression. Et je crois que le problème avec les associations de la société civile, c'est souvent là. C'est-à-dire, c'est ce que la société civile dit. C'est-à-dire que la société civile, en fait, c'est l'organe d'alerte. C'est dire, attention, ici, il y a des choses qui se passent mal. Et dire, ça veut dire parler. Parler, c'est s'exprimer. Donc, après, il y a tout un enchaînement de choses qui font qu'il y a un problème. Moi, je vais prendre le cas de la Zambie, qui est un pays, c'est pas parce que vous êtes là, qui est un pays quand même dont on ne parle pas, je dirais, beaucoup en ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme. C'est un pays beaucoup impliqué dans les questions économiques, etc. La Zambie a passé au conseil, à l'EPU. Il y a eu des recommandations qui ont été faites à la Zambie. D'ailleurs, la Zambie, le Burkina Faso est membre de la Troïka de la Zambie qui va être examinée pour la deuxième fois la semaine prochaine. Donc, à titre personnel, je veux faire partir de ce groupe de trois États pour discuter du rapport de la Zambie. Nous avons déjà reçu des questions préliminaires posées par les organes de la société civile sur des préoccupations réelles en Zambie. Nous en tiendrons compte pour faire notre déclaration. Donc, il y a des problèmes. Maintenant, c'est comment est-ce que la société civile peut se faire entendre. Et là, je veux juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport à l'intervention de mon collègue
Joshua.
C'est par rapport au rôle même de la société civile au niveau du conseil de l'EPU. Vous savez que la société civile n'a pas vraiment le droit de parole de la société civile est très limité pendant les sessions du conseil. Souvent, ils sont obligés de se mettre ensemble pour faire une déclaration commune, alors que parfois les intérêts de défense ne sont pas les mêmes. Si vous prenez le cas de l'EPU, lors de la présentation du rapport, tout simplement, la société civile n'a pas droit à la parole. Elle a droit à la parole seulement pendant l'adoption du rapport. Donc déjà, c'est limité et elle a 2 minutes pour s'exprimer. Donc, 2 minutes, on n'est pas mieux lotis non plus, parce que nous, en tant qu'État, on a 1 minute 30, 1 minute 50, ça dépend du nombre de pays inscrits sur la liste. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui s'enchaînent, mais je crois qu'il faut que le regard des États change sur la société civile. Il faut aussi que le regard de la société civile change sur les États, parce qu'avant d'être société civile, vous êtes aussi des acteurs, des États. Donc, on est tous responsables de ce qui se passe, bien ou pas. Si la société civile est active et reconnue, les choses avanceront. Si elle est active et pas reconnue, les choses n'avanceront pas. Donc, je ne sais pas si j'ai assez répondu à vos préoccupations. Je veux revenir à ma distinguée amie du Mali. Je dirais que le Mali et le Burkina, oui, nous sommes un pays frère. Je ne dirais pas que nous sommes les mêmes, parce qu'en diplomatie, il ne faut jamais le dire. Je crois que chaque État est indépendant et que malheureusement, aujourd'hui, le Mali traverse une crise très difficile et nous espérons tous que nous allons sortir de cette crise. Bien sûr, le Burkina Faso est impliqué et nous allons voir comment est-ce que nous allons sortir de cette crise. En ce qui concerne la participation de la société civile à la rédaction du rapport, c'est dommage si c'est ce qui s'est passé au Mali. Bon, moi, j'ai écouté la présentation du rapport du Mali quand le Mali est venu au groupe de travail, mais ce n'est pas ce que le Mali nous a dit. Le Mali nous a fait comprendre que le rapport a été rédigé de manière participative, les organisations de la société civile ont été impliquées, mais bon, le Mali n'est pas le seul exemple. Tous les pays ont dit que le rapport était participatif. Voilà. Donc nous, la problématique, c'est comment est-ce que nous pouvons vérifier cette participation. Ça, c'est une autre chose. Donc, au Burkina Faso, puisque votre question est liée à comment ça s'est passé au Burkina Faso, le rapport a été rédigé sur la base d'un comité interministériel qui a été mis en place. Et dans ce comité interministériel, nous avons convié les organisations de la société civile. Le problème de la société civile, c'est de lui demander de s'organiser avant de venir à la réunion. Parce que le problème de la société civile, c'est ça, c'est comment on va s'organiser. Il y a toujours des guerres de leadership. Ce n'est pas que dans la société civile, c'est partout. C'est pourquoi vous allez aller nous représenter, nous, société civile, et pourquoi pas moi, mais c'est moi qui suis plus impliquée dans les droits de l'homme. Ça, c'est le problème de la société civile. Et je sais qu'au Burkina, on a eu ce problème. Donc, ce qu'on a fait au Burkina, on a dit à la société civile, allez-y, discutez entre vous, choisissez des représentants pour venir au comité interministériel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la société civile doit d'abord s'entendre sur ses préoccupations en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, rédiger ses préoccupations, venir à la table de discussion avec l'État. Si ce travail n'est pas fait, ce n'est pas possible. Ça veut dire que chaque société civile voudra venir dire ce qu'elle a comme préoccupation, ce qui ne se fait pas. Et lors de la présentation du rapport de Burkina, malheureusement, la société civile n'était pas présente à Genève. Nous avons eu juste le président de la Commission nationale des droits de l'homme qui est venu, mais est venu avec l'équipe gouvernementale qui était venue pour présenter le rapport. Donc le problème aussi de la société civile se situe à ce niveau. Et je comprends en tant qu'État que parfois la société civile n'a pas la capacité financière de venir. Nous connaissons par exemple des ONG africaines qui sont financées par des partenaires européens pour venir assister à l'EPU. Vous pensez bien que la capacité réelle d'action de ces ONG sera forcément limitée. Comment voulez-vous défendre vos propres intérêts si vous n'êtes pas vous-même indépendant financièrement? Mais c'est toute la question de l'indépendance en général. C'est comme partout dans la vie. Si vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas avoir de capacité réelle d'impact dans ce qui se passe. Donc, la problématique est ainsi. En ce qui concerne le suivi des recommandations, je ne sais pas ce qui se passe au Mali, mais pour le Burkina Faso, aujourd'hui, le Burkina a un plan d'action de mise en œuvre de ces recommandations. Je ne dirais pas que c'est un plan parfait. Mais ce que les États ne savent pas, quand ils viennent à l'EPU, c'est qu'ils ont la possibilité de demander de l'aide, du soutien à des organisations qui sont prêtes à les accompagner dans la rédaction de leur plan. Par exemple, l'OIF est très impliqué non seulement dans la rédaction des rapports de l'EPU, mais aussi dans la mise en œuvre des recommandations. Le Burkina, par exemple, a bénéficié de l'aide de l'OIF à travers un expert de l'OIF pour rédiger son rapport. Ensuite, nous avons demandé un soutien au Haut Commissariat, notamment le bureau régional basé à Dakar, qui nous a appuyés par des séminaires, par le financement d'un certain nombre de choses pour rédiger le plan d'action. Je ne dirais pas que le plan d'action est parfait. À titre personnel, là, j'enlève ma casquette étatique et je remets ma casquette personnelle. Je ne dirais pas que c'est un plan d'action parfait, parce qu'un plan d'action doit dire qu'est-ce qu'on a fait. Alors que souvent, il y a des plans d'action qui se comptent à dire « Oui, on a eu telle recommandation, on est en train de faire. » Je crois qu'il faut qu'on essaie d'aller un peu vite pour dire « Voilà ce qu'on a fait, voilà les problèmes que nous avons, et nous voulons un soutien. » Et pour que ce suivi se fasse, il faut qu'il y ait d'abord une restitution de ce qui s'est passé à Genève. Ça aussi, c'est un problème. Parce que les États viennent à l'EPU, ils présentent le rapport. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres États, mais ils repartent. Mais il n'y a pas de rendu. C'est-à-dire la société civile qui a pris part à la rédaction du rapport n'a plus le retour de ce qui a été fait à Genève. Donc je ne sais pas comment elle peut prendre part à la mise en œuvre des recommandations. Même si on sait que la mise en œuvre se fait aussi sur la base des actions prédéfinies par chaque institution ministérielle. Puisque, en général, les recommandations qui sont faites concernent le droit à la santé, l'éducation, la peine de mort, la justice, les prisons, etc. Et dans chaque État, nous savons qu'il y a des ministères en charge de toutes ces questions. Et que pour mettre en œuvre, il faut que chaque ministère travaille comme il faut. Et c'est dans le travail, la réalisation du programme d'activité de chaque ministère, que nous allons avoir le retour de la mise en œuvre des recommandations. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, au Burkina, c'est ce qui se passe. Je vais prendre les deux préoccupations de ma chère sœur du Burkina. La formulation des recommandations, bien sûr qu'il y a des complaisances. Vous ne pouvez pas dire qu'un pays... moi, je prends par exemple le cas de la France, qui a colonisé une partie de l'Afrique, dont le Burkina Faso. Bien sûr que nous allons dire à la France que le droit des étrangers, ce serait bien qu'ils fassent des efforts. Mais bon, on n'a aucune capacité vraiment d'injonction. Et puis, bon, on va quand même essayer de ménager le pays concerné en disant, oui, saluons les efforts faits par la France pour promouvoir les droits des personnes migrantes, encourageons la France à poursuivre dans ce sens, mais on ne va pas dire, oui, voilà, l'emprisonnement de XY, bon, voilà. Donc, forcément, il y a des complaisances, mais je pense que ce sont des complaisances diplomatiques. Je crois que les choses les plus importantes peuvent se discuter sur le plan bilatéral pour ne pas froisser les uns et les autres. Mais c'est tout l'art de la diplomatie. Et entre pays concernés, au niveau du groupe africain, bien sûr qu'on se soutient mutuellement. Le seul problème, c'est que par exemple, lorsque c'est les sessions extraordinaires ou ordinaires, en général, le groupe africain fait des déclarations. Donc, déclarations au nom du groupe africain sur une thématique ou sur un pays. Pour les pays, en général, on évite de faire des déclarations parce qu'on n'a pas la même position sur la situation des droits de l'homme dans un pays. Mais sur les thèmes, en général, on essaie quand même de s'entendre sur les thématiques qui sont abordées au Conseil pour faire des déclarations de groupe. Malheureusement, au niveau de l'EPU, on ne fait pas de déclaration de groupe pour la simple raison qu'on retourne toujours au pays et qu'on n'a pas la même appréciation en tant qu'entité souveraine, étatique, face à un État X. Par exemple, la manière dont le Burkina aborde sa coopération avec les États-Unis, ce n'est pas ce que l'Iran a avec les États-Unis. Donc forcément, l'Iran, je prends le cas de l'Iran parce que l'Iran est le coordinateur du NAM, le Burkina est membre du NAM. Mais par exemple, la vision que nous pouvons avoir par rapport à nos relations avec la France, ça peut être différent du Sénégal, ça peut être différent du Mali. Donc nous ne pouvons pas avoir une vision commune des choses. Donc nous ne faisons pas de déclaration de groupe. Mais nous allons faire des déclarations pour nous soutenir mutuellement. Parce qu'est-ce qui se passe avant la soumission du rapport ? Le pays qui est examiné envoie des notes verbales à toutes les missions de son groupe pour dire, voilà, moi je vais être examiné demain, s'il vous plaît, soutenez-moi. C'est ce qui se passe, c'est vrai. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi, voilà, venez. Il y a même des, vous pouvez écouter le webcast du Conseil, tout le monde peut y accéder, vous pouvez réécouter toutes les déclarations. Il y en a même qui soutiennent même les ambassadeurs qui sont sur place. Félicitons le monsieur l'ambassadeur de tel pays pour son action formidable à Genève, etc. Bon, voilà. Donc, c'est des déclarations diplomatiques. Donc, si quelqu'un vous demande de venir le soutenir, bon, il n'a pas dit de venir le casser. Il a bien dit soutien. Donc, vous allez dire, oui, félicitons la Zambie pour les efforts qu'il fait, félicitons pour la présentation de son rapport. La Zambie fait face à des contraintes dont nous sommes conscientes pour mettre en œuvre les droits de l'homme, mais nous l'encourageons à suivre, etc. Voilà. Donc, le soutien se fait comme ça, et c'est pour ça que je pense que il y a un moment où il faut être objectif. Malheureusement, même si on est dans un cadre de mécanisme de promotion des garanties des droits de l'homme, on est dans un cadre diplomatique. Et seul au niveau du Conseil de sécurité, les choses peuvent se passer autrement. Mais dans la diplomatie générale, c'est des débats de complaisance. Voilà. Après, il y a des pays, en revanche, parce qu'ils ont un certain pouvoir sur la scène internationale. Je prends notamment le cas des États-Unis, je prends le cas de Cuba, je prends le cas, par exemple, d'autres États qui sont en porte-à-faux entre grandes puissances, qui vont se taper dessus mutuellement, mais parce qu'ils ont la politique de leurs moyens. Le Burkina Faso est un pays en développement qui vit et qui survit grâce à l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires. Bon, si tu viens, excusez-moi le terme, cracher dans la casserole dans laquelle tu manges, il te sera difficile de retrouver après de la nourriture. Voilà, donc le problème, il se situe à ce niveau-là. Donc c'est un paramètre que la société civile doit prendre en considération. Ce n'est pas que les États ne veulent pas, mais il y a des moments où on ne peut pas faire comme on veut. Parce que les droits de l'homme, c'est aussi de la politique. Il y a des réalités sociales, c'est vrai. Mais il y a aussi un certain nombre d'accords qui existent qui font que vous ne pouvez pas souvent outrepasser la limite. Et enfin, en ce qui concerne les relations ou le désintérêt de la société civile par rapport à la question des droits de l'homme, moi, je dirais que ça dépend des pays. Peut-être qu'il y a des pays où, je ne sais pas, je ne pourrais pas citer d'exemple comme ça, mais je sais qu'il y a des pays où la société civile est très active en ce qui concerne les questions des droits de l'homme. Et puis, il y a des pays où ça l'est moins. Ça l'est moins pourquoi ? Parce que si vous prenez le cas du Burkina Faso, les droits de l'homme n'ont attiré vraiment l'intérêt qu'il y a très peu. Je dirais pratiquement après les années 91. parce que le Burkina est un pays qui a vécu quand même beaucoup, beaucoup de crises politiques. On a eu beaucoup d'états d'exception. Et vous savez que sous les états d'exception, en général, les droits de l'homme sont mis dans un placard. Même si on sait que les droits de l'homme, c'est tous les jours, il y a quand même un certain nombre de droits qui sont mis dans le placard parce qu'il n'y a pas un investissement politique. Après les années 91, avec l'adoption de la nouvelle constitution, le retour à la démocratie, on a essayé d'évoluer. Créer le ministère de la promotion des droits humains, secrétariat d'État, ensuite ministère de la promotion des droits humains. C'est vrai que ça constitue une ouverture sur le monde parce que dès que vous avez un ministère de la promotion des droits humains, vous marquez tout de suite votre intérêt politique. Nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme. Nous avons été au Conseil de sécurité. Donc nous avons quand même un certain nombre d'actions que nous avons entreprises pour sensibiliser les populations. Mais il faut que les gens comprennent ce que c'est que les droits de l'homme. Il n'y a pas longtemps qu'on a essayé de traduire la notion de droit de l'homme en langue nationale. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où droit de l'homme existe en langue nationale. Le Burkina Faso, il y a quand même 70, sinon, si je ne suis pas très lourde, 80%, 70% de personnes non alphabétisées. Alphabétisation moderne, on dira, parce qu'il y a quand même le système non formel avec l'alphabétisation dans les langues nationales. Nous avons un lexique de 5 langues, non, sur les questions des droits de l'homme. Mais il faut que les gens comprennent. Si vous avez un ministère et puis personne ne comprend ce que vous dites, si vous allez dans les campagnes, vous dites droit au loisir. Droit au loisir dans un pays où les gens ne savent même pas ce que c'est que se reposer, savent même pas ce que c'est que avoir du plaisir, parce qu'ils n'ont pas assez mangé, ils ne se sont pas soignés. Les gens sont sur le minimum vital. Donc, qu'est-ce que vous voulez parler des droits de l'homme que vous discutez dans des salons feutrés avec du café, que vous prenez les avions pour aller discuter, mais les gens vous disent, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Et puis, pour eux, les droits de l'homme, c'est la politique. Quand vous allez dans les campagnes au Burkina, que vous dites droits de l'homme, oulala, tout le monde, attendez, moi je ne suis pas comme ça, etc. Donc, il faut une implication de la société civile, un intérêt, mais je crois qu'elle existe. Seulement, malheureusement, les financements de la société civile aussi posent un problème en matière d'implication réelle. Parce que lorsque la société civile est financée par un certain nombre de partenaires, ils attendent du résultat concret. Vous avez construit combien d'écoles? Vous avez fait combien de forages? Vous avez mis combien d'enfants à l'école? Combien de maternités? Si vous investissez financièrement dans une société civile en charge de promouvoir les droits de l'homme, le résultat n'est pas palpable, hein? Défendre les droits de l'homme, c'est à long terme, c'est pas demain ni après-demain, c'est longtemps, c'est peut-être toute une vie. Donc le résultat n'est pas immédiat, alors que nos partenaires financiers veulent de l'immédiat. Ils veulent la comptabilité tous les mois pour pouvoir aussi dire à ceux qui leur ont donné les fonds qu'ils vous ont donné que nous avons fait ceci, cela. Donc je comprends aussi la réticence d'un certain nombre d'organisations qui ne veulent pas s'investir dans les droits de l'homme parce que ce n'est pas rentable. Et puis malheureusement, ça c'est un autre revers de la société civile, souvent en Afrique, je prends le cas du Burkina toujours, où la société civile des fois se résume à une personne qui engloutit personnellement tous les fonds qu'on lui donne aussi. Donc chacun crée une organisation pour être le chef, avec une grosse voiture, aménager son espace vital, et puis finalement la cause pour laquelle l'organisation a été créée n'existe pas. Mais là, il est du devoir du ministère que vous représentez, effectivement, d'ouvrir un autre canal de discussion et puis de poser les bases du débat. Vous voulez défendre les droits de l'homme? Voilà l'agenda. C'est vrai que l'État n'a pas donné un agenda aux sociétés civiles, mais que la société civile nous dise, voilà notre agenda. Comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Et puis, malheureusement, si l'État investit dans la société civile n'a plus de liberté. Donc, c'est compliqué, mais c'est faisable.
Bien, merci Clarisse. On prend encore une question parce qu'il faut qu'on arrête et qu'on doit libérer notre intervenante. Donc, sois très court, Abdoulaye, s'il te plaît, précis.
Je ne pose pas de questions, j'apporte simplement deux lumières. Le grand problème de l'Afrique se situe à deux niveaux. Les gens sont mal élus et quand ils s'installent, ils ne veulent pas quitter. Donc, voilà la première entorse qui fout tout en l'air. Le deuxième élément, toute l'Afrique n'est pas pauvre. Il y a des Africains qui sont plus riches que certains Suisses ici. Si on ne veut pas parler des droits de l'homme, ce n'est pas parce que les populations sont ignorantes, c'est parce que ça n'arrange pas. Il ne faut pas qu'on présente l'Afrique comme étant un îlot de pauvreté. Non, il y a des classes sociales, il y a des gens très très riches qui savent très bien que ça veut dire droits de l'homme et qui n'en parlent pas. Et généralement, les problèmes de la société civile africaine, à 80%, sont créés par nos États. On a des ONG corrompus, on les organise, on les demande de s'organiser. Au niveau de la question du leadership, on sait qu'il n'y a que les ONG corrompus qui ont accès aux médias d'État. Donc il faut que les choses soient claires. Et généralement, la plupart des pays africains qui acceptent même l'accompagnement des pays occidentaux, c'est sur les questions de droits de l'homme qui ne fâchent pas. La scolarisation des filles, l'accès à l'eau potable. Mais dès qu'il s'agit de la bonne gouvernance, de la transparence dans la gestion du patrimoine et les biens publics de l'État, là, généralement, ça se crispe. Je vous remercie.
Merci pour ce constat, Abdoulaye. J'aimerais juste dire que c'est vrai au niveau des ONG, je ne parle pas au niveau des États, mais il y a quand même des ONG efficaces, concrètes et qui... C'est juste pour un petit peu relativiser. Chez nous, ça existe aussi, hein, mais c'est moins dramatique compte tenu que les conditions de vie sont moins dramatiques et que nos droits sont quand même respectés au niveau des droits fondamentaux. Mais il y a des ONG qui sont terriblement actives, effectives en Afrique et bien organisées. Mais ça existe, c'est évident. Je ne pense pas que tu as apporté quelque chose. Tu veux dire quelque chose, Clarisse, avant de conclure?
Moi, je voudrais juste dire que, en fait, le rôle que veut jouer la société civile dépend des moyens qu'elle se donne. Les États n'iront que très rarement rechercher la société civile, chercher la société civile pour œuvrer à ses côtés. C'est à la société civile de s'imposer. Et si vous voyez qu'au sein des gouvernements, parfois, il y a des personnalités qui agissent de manière efficace pour les droits de l'homme, c'est souvent des personnalités qui sont venues aussi de la société civile. Parce qu'il faut apprendre aussi à promouvoir les droits de l'homme. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas facile. Donc les acteurs de la société civile, surtout dans les pays en difficulté comme le Burkina Faso, ont beaucoup de mérite parce que c'est pas évident, mais il y a ceux dont on entend parler parce qu'ils ont la capacité de le faire, et puis il y a ceux dont on n'entend pas parler qui font un travail formidable, je suis d'accord, et qui malheureusement ont besoin de beaucoup de soutien. Mais je crois qu'il ne faut pas rejeter vraiment la faute sur les États, parce que tout dépend du départ en fait de la relation, et que les États ont des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts individuels, personnels, qui ne concernent pas un seul groupe, mais qui concernent toute une nation, et que ce n'est pas évident de défendre. Même nous, en tant que diplomates, nous avons nos convictions, comme disait Joshua, nous sommes des personnes, nous avons des sentiments, nous avons des émotions, nous avons des convictions personnelles, très fortes parfois, mais nous représentons aussi nos États. Donc, il faut toujours jouer l'équilibre, il faut toujours parler en disant j'enlève ma casquette diplomatique, je reviens à ma casquette personnelle, pour pas que ce que l'on dise soit considéré comme étant la position de notre pays. Donc, nous sommes toujours obligés de jouer l'équilibre. Je pense que finalement, c'est pour nous-mêmes.
Bien, ben merci Clarisse. Il ne reste qu'à vous remercier, Joshua et Clarisse, pour la clarté et le débat très intéressant qu'on a eu, qui complétait les informations de vos interventions. Donc, merci Clarisse. Je vais la libérer. Je vais donner la parole à Josh pour la poursuite des ateliers.